Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est heureux, on est dans notre nouvel appartement parisien, j'ai du boulot à ne plus savoir qu'en faire, je monte une agence de communication et à 6 mois et demi, je perds les os. Un soir, en me levant de mon canapé.
Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Et au cours de cette deuxième vie, on va dire, que tu as eue, donc la vie parisienne, tu as eu une nouvelle fille. Et c'est aussi là où tu as commencé à avoir cette réflexion de c'est peut-être pas que le journalisme, c'est aussi l'écriture, même si au départ, tu n'imaginais pas du tout en faire un métier, mais la réflexion a commencé à naître à ce moment-là. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer justement la naissance de ta deuxième fille et ce début de réflexion?
Alors, c'est vrai que j'ai constaté avec le recul que chaque naissance, puisque j'ai eu plusieurs enfants, a déclenché quand même une prise de conscience à chaque fois chez moi. En tout cas, comme si à chaque fois, chaque nouvel enfant m'amenait vers un nouveau chemin. Je pense que la première, elle m'a vraiment amenée sur quand même le journalisme, enfin, à assumer cette envie, aller vers ce métier-là. Et ma deuxième fille, qui effectivement est née donc en 2003, elle m'a amené, je pense, alors c'était très loin au fond de moi, mais peut-être l'idée que j'avais envie d'écrire ça. Oui, d'ailleurs, je passais ma vie à écrire. J'avais un rythme là. Cette époque-là, je travaillais beaucoup. J'avais vraiment beaucoup de collaborations. Ça marchait très très bien. Mais que peut-être je commençais à me dire, et si dans le fond, c'est pas autre chose que j'avais envie d'écrire. Et si dans le fond, tout ça, ça serait pas plutôt pour écrire des histoires et pourquoi pas, en fait, s'autoriser ce rêve-là, mais bon, encore une fois, complètement inaccessible. Parce que j'avais beau être dans la presse, je veux dire, j'étais pas du tout dans le sérail de l'édition, c'est encore un autre monde. Donc bon, j'ai commencé un peu à y penser à ce moment-là. Mais ça aura mis après beaucoup de temps pour que je me l'autorise. Mais oui, pour ma deuxième fille, peut-être a commencé à arriver cette idée que l'écriture et l'idée d'être un porte-parole, ça serait plutôt de porter une autre parole, mais la mienne.
Et donc, au cours de cette réflexion, cette vie assez effervescente entre travail et liberté dans la capitale, ton mari, donc, qui est architecte, tu vas le suivre dans un projet à un moment donné à Ivry-sur-Seine. Et donc, tu vas déménager là-bas et de nouveau, ce sentiment un peu d'emprisonnement va refaire surface. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette transition de Paris à de nouveau la banlieue et puis, voilà, ce sentiment qui a commencé à revenir à partir du moment où tu as changé d'espace géographique?
Oui, alors effectivement, on a vécu 2 ou 3 ans à peu près donc dans cette vie parisienne et est arrivé un projet de pouvoir construire en banlieue, donc retour en banlieue, pas la même banlieue, mais une banlieue quand même, un loft dans un endroit, Ivry-sur-Seine, où il y avait en fait plein d'usines qui étaient réhabilitées. Il y avait déjà eu plein de projets qui avaient été faits, mais il y avait encore des plateaux qui étaient disponibles. Et donc, c'était un projet d'architecte. C'était, on achète des murs vides et mon mari, puisque c'était devenu mon mari, pouvait s'éclater à faire un loft. C'était un endroit dingue. C'était une carte postale plantée au milieu de nulle part, formidable comme ça, sur le papier, avec des jardins fantastiques, des endroits partagés. Bon. Difficile de dire bah non, j'ai pas envie d'y aller. Même si au fond de moi, c'est ce que je me disais. C'est-à-dire que quand je suis allée visiter, qui m'a parlé de ce projet, je me rappelle très bien, c'était un dimanche après-midi, je crois que j'ai une petite voix au fond de moi qui m'a dit n'y va pas. Mais je n'ai pas pu, je n'avais pas les ressources pour dire non, en fait. J'y suis allée parce que je me suis dit, attends, mais comment tu peux refuser un truc pareil? En plus, c'était un lieu où il y avait plein d'artistes. Enfin, c'était fantastique sur le papier. Et surtout, pour un architecte, je comprenais que ça puisse être un projet extraordinaire. Donc, j'ai dit, OK, on y va. Donc, ça a pris un peu de temps, le temps de construire la maison et tout ça. Et on a déménagé, donc, effectivement, à Ivry-sur-Seine, une fois le loft terminé. Dans ce lieu où finalement c'était particulier, dans le sens où on avait notre habitation, l'agence dans laquelle travaillait mon mari et l'appartement de son patron au même endroit. Donc je me suis retrouvée à Ivry-sur-Seine, dans un lieu certes assez paradisiaque comme ça, avec des gens très sympas, des grandes tablées pour en faire des apéros à longueur de temps en bas, des jardins fantastiques, tout ça, mais finalement enfermé. C'est-à-dire quand je sortais de chez moi, c'était fini, la petite boutique ouverte, l'épicerie ouverte jusqu'à pas d'heure, ou la vie de quartier. Non, c'était vraiment planté au milieu de nulle part, à côté de la déchetterie d'Ivry-sur-Seine et de la voie ferrée. Pas de centre-ville, tout ça. Donc je me suis retrouvée d'un seul coup. Mais totalement étouffée, quoi. Donc, on a eu plein de moments heureux aussi, parce que dans ces tranches de vie, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de moments heureux aussi, mais le revers de la médaille, à un moment donné, ressurgit. Enfin, j'ai commencé vraiment à décliner et à aller pas bien du tout. D'ailleurs, je continuais à aller faire mes courses dans le 12e. Enfin, j'étais dans le déni, quoi. Voilà, je continue à faire plein de trucs dans le 12e. Je crois que j'ai jamais réussi vraiment à m'intégrer. Même si, encore une fois, je le répète, il y a eu plein de moments heureux aussi, mais j'étais pas bien là-bas, en fait. Voilà, dans le fond, du fond, du fond. Donc, j'ai même fait, on peut le dire, une dépression. Ça n'allait pas du tout, quoi. J'ai décliné.
Et ça allait tellement pas, j'ai envie de dire que... Au bout d'un moment, vous vous séparez pendant une période de 6 mois, donc que tu pourras expliquer brièvement. Et puis, vous allez vous remettre ensemble, revivre sur Paris, toi avec un minimum d'affaires, comme tu me l'avais expliqué, et là, de nouveau, la liberté. En fait, ça a toujours été un aller-retour entre emprisonnement et liberté. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce nouveau retour, donc la séparation, puis la remise ensemble, et de nouveau ce sentiment qui revient à Paris ?
Effectivement, donc ça n'allait pas du tout, et à un moment a été prise la décision de quitter Ivry. Moi, j'avais pas fondamentalement analysé que ça venait de là, ça n'allait plus dans le couple, forcément. De toute façon, quand on commence à aller pas très bien, ça impacte l'autre. Pour lui, c'était difficile parce que quand même, c'était un projet qu'on avait fait ensemble. Il avait tout, il fallait recommencer. Il avait son boulot là-bas, il avait fait son appartement. Bon, ok, il faut recommencer. Bon, on s'est séparés. On a acheté un appartement à Paris. Donc, on est revenu dans le 12e. Mais je suis venue habiter toute seule. Lui, il a pris un appartement pas très loin. Mais on n'a pas réussi, en fait, à remonter la pente suffisamment. Ou on s'y est mal pris, ou voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas... Il y a eu un retour sur Paris, mais séparé. Ça a duré 6 mois. Donc 6 mois où moi, j'ai intégré toute seule, avec les deux filles, les deux aînées, cet appartement parisien. C'est l'appartement où on est toujours. C'était paradoxal parce que j'étais triste d'arriver là toute seule. Et en même temps, je regagnais ma liberté. C'est-à-dire que d'un seul coup, je revenais à Paris. En plus, comme j'arrivais seule dans l'appart, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'ai un peu aménagé comme je voulais. Enfin, j'ai eu comme ça 6 mois où j'ai pu expérimenter aussi une vraie vie seule. Parce que j'avais un peu expérimenté lors de ma première séparation, mais je ne suis pas restée très longtemps seule au final. Mais là, quand même, bon, j'ai resté 6 mois avec 2 enfants. Ça se complique un peu. Beaucoup de travail. J'avais remonté la pente, donc je suis sortie de ma dépression en revenant sur Paris, en reprenant le boulot et en me rejetant à corps perdu dans le travail. Les 2 enfants, et puis avec mon conjoint, ça n'a jamais été la guerre. Même dans les pires moments, donc ceux où on s'est séparés, on est toujours restés assez proches. Donc c'était plutôt positif, cette rupture, même s'il y avait de la tristesse. Et en fait, on est restés tellement proches qu'au bout de 6 mois, on s'est remis ensemble. Voilà. Donc lui, il habitait pas très loin de la maison. Au début, on se voyait en cachette des enfants. Donc ça, ça a donné lieu à des moments assez rigolos parce qu'on essayait de se cacher des filles. Mais bon, on s'est fait griller assez rapidement. Donc voilà. Et donc, on a décidé de réessayer. On s'est remis ensemble. Et on est arrivé à un moment vraiment très marquant dans ma vie où on a décidé donc de faire des travaux. Initialement prévu d'ailleurs, d'aménagement de l'appartement où j'étais donc, pour pouvoir créer des chambres d'enfants. Initialement prévu ensemble, mais comme je suis venue seule, je n'ai pas fait des travaux. Mais quand on s'est remis ensemble, on a dit ok, on fait des travaux. Et là, j'ai été chez lui pendant le temps des travaux. Et donc, il louait lui un petit 2 pièces, pas très loin de la maison. Et il a fallu que je mette tout mon appartement dans la cave et que je prenne le strict minimum pour aller m'installer quelques mois chez lui pendant les travaux. Et alors là, je crois que ça a été l'expérience la plus marquante et la plus kiffante, comme on dit, de ma vie. Alors déjà, c'était très drôle parce qu'on a déménagé des affaires d'un appart à l'autre. Notamment, je revois les filles avec des oreillers traverser la résidence. c'était très drôle. On transportait des matelas, des trucs. Ça, c'était pour l'effet comique. Mais surtout, je me suis retrouvée avec, une valise, des livres, quelques affaires qui tenaient dans une petite armoire. Je me souviens parfaitement de cette petite armoire marron qui avait 3 étagères et mes affaires tenaient dans cette armoire. Et dans un appartement qui n'était pas le mien, où je me sentais entre guillemets un peu invitée, j'étais avec mes enfants, mon amoureux, et je me sentais... Alors je crois que ça a été le moment de ma vie où je me sentais le plus libre. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai besoin que de ça, quoi, pour vivre, pour être bien. Comme je n'avais pas été très bien, en plus, en ayant tout, en ayant un loft, en ayant du boulot à ne plus savoir quoi en faire. On avait acheté, je me rappelle, à l'époque d'Ivry, une grande voiture. Enfin, vous voyez, c'était un peu l'opulence. Et là, d'un seul coup, je me retrouvais avec quelques affaires, mes enfants, mon homme, mes livres. Et alors, mais franchement, j'étais trop bien.
Et donc, à partir de là, vous poursuivez votre vie ensemble, etc. Et tu finis par tomber enceinte de ta 3e fille. Et cette 3e fille, elle va naître très prématurément, pardon, à 6 mois et demi. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet événement qui a quand même tout mis en pause en un claquement de doigts?
Alors, effectivement, après le fait qu'on se soit remis ensemble, on a donc fait nos travaux et réintégrer l'appartement nouvelle version. Et on a eu le projet d'avoir un autre enfant, une 3e fille en l'occurrence, on a eu. Alors, il y a quand même eu un épisode avant un peu douloureux, puisque j'ai fait une fausse couche avant ma troisième fille. Mais sinon, je suis assez rapidement retombée enceinte. Et à ce moment-là, on est heureux, on est dans notre nouvel appartement parisien, j'ai du boulot à ne plus savoir qu'en faire, je monte une agence de communication et à 6 mois et demi, je perds les os. Un soir, en me levant de mon canapé. Bon, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais effectivement, ma vie a basculé. Très, très clairement. Il faut savoir que sur le plan de l'écriture, j'ai commencé quand même à faire des tentatives de romans. Enfin, cette idée que quand même l'écriture, ça pourrait être autre chose, elle a continué à avancer, mais il fallait payer le crédit, payer les traites, payer les vacances, payer plein de choses. Donc, j'étais pas encore au point de me l'autoriser. C'est important parce que finalement, cette naissance qui va tout arrêter du jour au lendemain, c'est-à-dire plus d'agence de com, plus de boulot, plus rien, uniquement cet enfant qui doit survivre, qui se bat pour survivre, moi aussi, parce que moi aussi, je reviens un peu de loin. La vie, c'est un tsunami et la vie prend complètement une autre tournure, avec une grande prématurité, effectivement, de longs moments à l'hôpital, une longue série de doutes, de moments très très difficiles, un long tunnel, l'inquiétude, la peur, on ne sait jamais rien du lendemain finalement, on apprend à vivre comme ça. Et donc pour moi, une longue période aussi de sans travailler, puisque bon, bah, moi, de toute façon, la question ne s'est absolument même pas posée 2 secondes, hein. Enfin, j'ai tout arrêté, hein. Mis sur pause tout pour m'occuper de Pauline, ça s'appelle Pauline. Le sentiment de liberté, il est très très loin. il est plus du tout ma priorité. Ma priorité, c'est la santé de ma fille et le bien-être de Margot et Juliette, mes 2 autres enfants. C'est-à-dire que vraiment, je me dis là, ma place, elle est là. Et il se passe 2 bonnes années où effectivement, c'est l'hôpital, les soins, la réduction, enfin bon, tout un tas de choses qu'il faut faire quand on a un enfant prématuré. Et quand même, quand j'étais à l'hôpital et que j'étais en train de la regarder dormir, parce qu'on passe beaucoup de temps à regarder son enfant dormir quand on a un préma, je me disais quand même quand je serais sortie de tout ça, parce que j'ai eu conscience quand même que ça serait long, je l'ai su tout de suite que ça serait long, j'écrirai. Cette fois-ci, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que je ferai. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu un espèce de Après, ça m'est pas, c'est sorti très vite, c'était pas ça la priorité, mais j'ai eu un éclair, quoi. Je me suis dit, en fait, toi, t'as réussi à t'en sortir, ce qui était pas gagné. Elle, bon, il va falloir du temps, mais elle va s'en sortir. On s'est tous battus, elle s'est battue, tout le monde s'est battu pour qu'elle s'en sorte. J'écrirai. Et pendant 2 ans, le couple, franchement, était dans une, enfin, ça nous a vraiment beaucoup rapprochés. Pas qu'on s'était rééloigné, mais disons que ça nous a encore plus soudés, cette aventure, parce que ça a été une grande aventure. Et quand ma fille est sortie d'affaires, bon, j'avais commencé, moi, du coup, à écrire, je profitais des moments où elle dormait, enfin, ça y est, je m'étais mise dans une dynamique d'écriture. J'ai eu à nouveau un gros, gros coup de mou, parce que, en fait, je m'étais beaucoup occupée d'elle, à juste titre, et de ses sœurs, mais pas de moi. En fait, j'avais pas pris le temps de faire attention à moi. Et ça m'est revenu, en fait, comme un boomerang. Donc, j'ai eu à nouveau un gros moment de difficulté. Et le couple s'est à nouveau séparé. On n'a pas réussi à... Donc là, elle avait 2 ans et demi. Hein. Je repartais de zéro. J'avais tout arrêté, mon boulot, j'avais plus rien. Vraiment, je n'avais plus de travail du tout. Parce que c'est bien normal, hein, quand on s'absente 2 ans, 2 ans et demi, les gens, ils vous attendent pas. Hein. Et j'avais plus envie de recommencer à écrire. Alors, dans le jargon du journaliste, c'est pas très joli, mais on dit pisser de la copie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des phases dans ma vie où ça tournait tellement bien que j'écrivais, mais à la pelle. au point que parfois, je ne sais pas que je comprenais plus ce que j'écrivais, mais ça commençait à ne plus trop avoir de sens. Et finalement, cet événement, c'est comme si ça avait tout remis un peu, ça a redistribué les cartes, et puis ça m'a posé la question du sens, forcément. Je veux dire, quand vous avez un enfant qui est entre la vie et la mort, pendant des... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... voilà. Et j'arrivais plus. En fait, j'avais plus du tout envie d'être journaliste. Même si je pense qu'on n'arrête jamais vraiment de l'être, c'est des métiers passion, mais j'avais envie d'autre chose. Donc j'avais envie d'être, comme je le disais tout à l'heure, le porte-parole de ma voix à moi. Et j'ai décidé de me lancer et de devenir auteur. Bon, alors, c'était complètement fou, hein. J'étais séparée. J'avais plus de boulot. Heureusement, j'avais un toit, mais j'avais plus de travail, plus de compagnons. Et 3 enfants, quand même. Et en fait, j'ai redémarré à zéro. Voilà, j'ai tout recommencé. J'ai refait tout ce que j'avais fait pour faire ma place en tant que journaliste, mais cette fois-ci dans l'édition. Et ça a été long. Vraiment long, hein. J'ai mis 4 ans pour arriver à sortir quelque chose. J'allais rencontrer du monde, je faisais des projets, j'envoyais plein de choses que personne ne lisait. Et puis un jour, quand même, il y a eu une première réponse, des encouragements. Alors c'est un chemin qui est très très long. Je ne vais pas raconter ici tout le chemin pour arriver à être publié. Alors, il y a toujours des exceptions, hein, des belles histoires et puis surtout des gens qui ont peut-être plus de talent que moi. Mais ça a été très, très long et c'est la jeunesse qui m'a happée. Et j'ai sorti, entre autres, j'avais eu une première histoire qui était sortie dans Pomme d'Api. Alors, ça fait peut-être sourire, mais Pomme d'Api, c'est un peu le Graal quand on travaille dans l'édition jeunesse. Parce que c'est vraiment le magazine le plus vendu. Enfin bon, c'est... Quand on publie dans Pomme d'Api, vraiment, c'est... c'est une bonne première marche. Et après, j'ai mis 4 ans à publier donc un album qui s'appelle « Il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime » et qui raconte l'histoire de la naissance prématurée de ma fille. Mais que j'ai voulu raconter sous le prisme de la fratrie. Et moi, ma quête de sens, ça a été ça. C'est-à-dire de me dire, ok, maintenant j'ai envie d'écrire, bon ça c'est sûr, mais surtout j'ai envie de raconter ça, quoi. C'est ça que j'ai besoin de raconter, là. Et je veux le faire pour les frères et sœurs, bon là c'était des sœurs, parce que j'avais constaté qu'effectivement, quand ça arrive, on est très focalisé, et c'est bien normal sur le bébé, mais que les fratries, elles souffrent beaucoup aussi. Donc je voulais faire quelque chose pour les fratries. Donc ça a été mon obsession. Et j'ai envie de dire, j'aurais eu du mal à faire autre chose tant que ce livre serait pas sorti. Je remercie encore aujourd'hui l'éditrice qui a pris le risque et le pari de faire un livre sur ce sujet. Depuis, il y en a eu pas mal de faits, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. J'ai décidé de faire ça, j'ai fait ça, j'ai commencé après à faire ce que font beaucoup d'auteurs, des ateliers d'écriture. Et là, pareil, ça avait du sens, quoi. C'est-à-dire que je commençais à faire écrire les autres.
Et lorsque ton livre est sorti, qu'est-ce que tu as ressenti ? Ce premier livre, c'était un accomplissement ?
Ah oui, c'était vraiment à double niveau. C'était un livre qui sort et ce livre-là, qui raconte cette histoire-là, c'était pas rien. Donc j'étais super fière, j'étais heureuse. Enfin, j'avais l'impression d'avoir trouvé une place à nouveau et un nouvel espace de liberté. Mais qui n'était pas le même que celui que je croyais trouver en allant changeant de ville, en changeant de mari même. Quand j'ai voulu quitter mes parents, c'était pour avoir plus de liberté. Quitter mon premier mari pour plus de liberté, etc. Quitter Ivry pour plus de liberté. En fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était peut-être un peu biaisé. Bon, après, une histoire d'amour qui s'arrête, ça arrive, hein, c'est pas très original, mais j'ai trouvé ma liberté dans les histoires que j'ai commencé à raconter. Et surtout, une liberté dingue dans le fait de me reconnecter à mon enfance. C'est-à-dire qu'avec ces histoires pour enfants, j'ai l'impression que j'ai cheminé vers un endroit qui était le mien, où je pouvais faire à peu près ce que je voulais, comme je voulais, Avec plus ou moins de réussite, parce qu'on a toujours envie que toutes les histoires plaisent. Bon, c'est pas le cas, hein. Des fois ça plaît pas, etc. Mais en tout cas, c'était un espace à moi.
C'était une liberté parce que tu pouvais écrire ce que tu voulais, en fait.
Exactement. L'écriture, je pense que vraiment, c'est un espace de liberté incroyable. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à être dans ce milieu-là, qui est aussi un milieu très difficile, parce que très concurrentiel, parce que peu rémunérateur. Donc j'ai commencé à faire, comme je disais, des ateliers d'écriture, enfin développer tout un tas d'activités autour de l'écriture pour vivre. Bah, déjà, je me suis reconstruite. Je me suis reconstruite toute seule. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que pour une fois dans ma vie, et même si j'ai vraiment eu des moments difficiles, parce que seule, avec 3 enfants, sans boulot et en voulant devenir auteur, je cumulais quand même pas mal de difficultés, et ben ça m'a permis de me reconstruire sans dépendre de quelqu'un. Ça a pris le temps que ça a pris, mais petit à petit j'ai remonté la pente et j'ai réussi à faire plein de choses.
Et justement, donc tu as remonté la pente seule, comme tu me l'as dit, et puis quand ça allait mieux, tu t'es remariée avec ton dernier mari. Et comme tu l'as dit, professionnellement, après, tu as fait plein de choses. Alors, est-ce que tu peux déjà me dire que tu as fini par te remarier, mais surtout me parler de ces projets professionnels aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait?
Alors, effectivement, ça a pris 4-5 ans. Ça allait mieux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec mon deuxième mari, même séparés, même divorcés, puisqu'on avait fini par divorcer, hein, on s'est toujours bien entendu, on est toujours resté assez proche, et on est resté tellement proche que ces 5 années tout seul, chacun de notre côté, finalement c'est un peu comme si on avait avancé un peu en parallèle quand même, sans le savoir, parce que je crois qu'on s'est rendu compte qu'on s'aimait encore et puis qu'on avait encore quelque chose à vivre ensemble, et on a fini par encore se remettre ensemble. Donc, alors, nos enfants, au bout d'un moment, ça donnait des situations un peu rigolotes et caustiques, parce que, elles commençaient à être un peu... à plus trop nous prendre au sérieux. Non, mais c'est pas vrai, là, vous allez pas vous remettre ensemble encore, mais c'est pas possible. Bon, c'était assez drôle, mais je crois qu'on a, on a compris qu'il fallait qu'on soit ensemble. Donc, on s'est remis ensemble. Et moi, je suis revenue dans cette histoire en étant enfin moi-même. C'est-à-dire que j'y avais eu le temps de professionnellement aller tendre vraiment vers ce vers quoi je tendais, enfin aller vers ce vers quoi je tendais depuis longtemps. Lui, il avait du coup aussi fait son chemin. Et ça a été une période assez... prolixe, où j'ai pas mal écrit, où j'ai pas mal publié, où on était heureux de se retrouver, on a même décidé de se remarier. Bon, on s'est remarié plus tard, parce que cette période dont je parle, assez prolixe, c'est arrivé, on s'est remis ensemble en 2018. Donc là, c'était vraiment formidable, tout roulait, et après, il y a quand même eu le Covid qui est arrivé. Donc là, c'est autre chose. Et ça a un peu ralenti, pas mal de choses au niveau boulot, mais on était ensemble, on refaisait des projets, dont celui de se remarier.
Et la mise en scène pour toi, c'est arrivé?
Et en fait, un nouveau tournant est arrivé. J'ai eu envie à un moment donné d'aller encore plus loin et d'être totalement autonome dans la réalisation de mes projets. Alors, j'aurais pu monter une maison d'édition, par exemple. J'aurais pu faire plein de choses pour être plus autonome. J'aurais pu auto-éditer, m'auto-éditer. Bon, j'ai pas fait ces choix-là. J'ai choisi, un peu par hasard, de mettre en scène et de porter au théâtre un de mes projets. Il se trouve que j'avais écrit un texte, un roman, qui est un roman, je dirais, intergénérationnel, parce que c'est une histoire entre un grand-père et sa petite-fille, qui se retrouve embarqué aux Jeux Olympiques de Paris, dans de folles aventures. Et j'ai écrit ce roman qui n'a pas trouvé d'éditeur, qui a reçu plein de retours positifs, constructifs, hein, plein de choses positives, mais qui n'était jamais suffisante pour être édité. Enfin, Voilà, c'est un texte qui demandait à être retravaillé. Donc, il n'a pas trouvé d'éditeur. Et je me suis retrouvée un peu par hasard à postuler, enfin, je ne sais pas comment on dit, présenter un dossier pour obtenir une labellisation dans le cadre des JO, pour une labellisation qui s'appelle l'Olympiade culturelle, qui labellise des projets de spectacles vivants autour des Jeux olympiques, du sport et de l'art. Et j'ai postulé à ce label en me disant « je ne l'obtiendrai jamais ». Tout le monde m'a refusé le texte, donc je ne sais pas pourquoi j'obtiendrai le label. Mais allez, je vais essayer. Et puis j'avais dit « chiche, si j'obtiens le label, je fais une pièce ». Ça a duré 6 mois à peu près, et il se trouve que j'ai passé la première phase, puis la deuxième phase, et j'ai obtenu ce label. Et comme j'avais dit « chiche, je fais la pièce », j'ai quand même un peu réfléchi, mais pas très longtemps, je me suis dit « ok, je fais la pièce ». Et en fait, je me suis retrouvée, depuis donc l'été dernier, depuis 6 mois maintenant, un peu plus, 6-8 mois, à monter une pièce de théâtre autour de ce texte. Donc actuellement, nous sommes encore en répétition et on va bientôt jouer à Paris, là, le 8 avril. Et donc, j'ai monté une équipe, j'ai réécrit l'adaptation théâtrale, depuis 8 mois, je suis complètement à fond là-dessus. Donc, je suis quelque part devenue metteuse en scène, chef d'entreprise aussi, parce que c'est une petite entreprise. En fait, encore un autre espace de liberté. Mais alors, pour le coup, là, celui-là, je l'avais pas vu venir, qui s'est un peu offert à moi. C'est une occasion qui s'est offerte, un défi à moi-même peut-être aussi, un challenge. Et je me suis dit, bon, bah, ok, je vais essayer en fait. Pour être tout à fait honnête, c'est une révélation sans en être une. C'est-à-dire que c'est une l'écriture d'histoire, de fiction, ça a été une révélation pour moi. Ça a été vraiment, ça y est, je suis à ma place. Là aussi, je me sens à ma place, mais c'est plus un petit joke. C'est un petit clin d'œil parce que je vais avoir 50 ans et que je me suis dit, c'est le projet, quoi. C'est le projet de mes 50 ans. Allez, on va voir si j'y arrive, quoi. Donc, c'est un peu différent. Ça a du sens de le faire parce que ce qui me fait dire que ça a du sens, c'est quand je vois le résultat, là, déjà, de tout ce qu'on est en train de faire, de tous les gens qui travaillent avec moi, etc. Enfin, bon, c'est une aventure humaine extraordinaire. Puis, j'ai des gens qui m'ont suivi, des théâtres qui me suivent. Enfin, c'est une folle histoire, vraiment une folle histoire. J'aurais jamais pensé me retrouver dans cette histoire, dans cette aventure. Mais je ne sais absolument pas sur quoi ça va déboucher. C'est-à-dire que c'est l'inconnu le plus total. Je travaille au jour le jour, je règle un problème à la fois, j'avance sans savoir ce qui va se passer.
Et justement, tu as commencé à y répondre dans cette question, mais je voulais qu'on termine là-dessus. Là, c'est ton nouveau projet. Tu vas avoir 50 ans, tu as toujours été en quête de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de l'avoir trouvé? Est-ce que tu te sens libre ou est-ce que tu sens que tu peux encore faire mieux peut-être dans les années à venir?
Alors oui, je pense que j'ai trouvé une forme de liberté, c'est-à-dire que j'ai trouvé une forme d'assurance qui me permet de dire « j'ai envie de faire ça, je le fais ». Mais je crois que je suis pas encore allée au bout de ma quête. Et je crois que la prochaine quête, enfin, elle est déjà initiée depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je dirais. C'est plus une quête sur mes origines. C'est-à-dire que ça va être moins sur le travail. Le prochain projet, c'est l'Italie. Parce que je me suis rendu compte depuis quelques années que c'est vraiment une part de moi-même que j'avais un peu mis sous cloche, comme quoi on y revient, et qui pourtant était fondamentale pour moi, qui me faisait à la fois vibrer, et c'est aussi le manque de cette partie-là qui parfois, je pense, m'a rendue malheureuse, sans que j'en aie conscience. Donc, j'ai commencé depuis quelques années à retravailler, pas à retravailler, mais à retourner vers mon italianité et ma double culture, au point de prendre la double nationalité. C'est-à-dire que là, récemment, j'ai reçu ma carte d'identité italienne. Parce que comme je suis fille d'Italien, j'ai le droit à la nationalité. Et à avoir comme projet de partir un peu vivre là-bas et renouer avec mes origines. Et au-delà de mes origines, avec ma double, assumer vraiment pleinement ma double culture. Donc j'ai encore des envies de liberté qui vont passer peut-être cette fois-ci par un changement de pays, découvrir aussi un autre mode de vie que je connais quand même un peu, hein, parce que j'y vais beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est sans fin ce truc-là.
Et donc toi qui m'avais parlé du chiffre 3, qui avait un peu, quand tu prenais du recul sur ta vie, ça avait un petit peu... Enfin voilà, t'avais l'impression que ta vie elle était en 3, à chaque fois il y avait eu 3 vies. Donc là il y aura peut-être un chiffre 4 alors. Enfin, tu peux expliquer le chiffre 3, mais.
Alors le chiffre 3, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je me suis rendu compte que, bah déjà, je me suis mariée 3 fois, dont 2 fois avec le même homme avec qui j'ai eu 2 enfants. Enfin, à chaque fois il y a eu un mariage, un enfant. Enfin, ça s'est pas toujours fait dans cet ordre-là, mais en tout cas un enfant, un mariage. Et à chaque fois, ça a été des moments clés dans ma vie où j'ai pris des tournants, en fait, aussi professionnels, où j'ai l'impression d'avoir aussi franchi des grandes étapes en tant que femme. Donc, je me suis dit, tiens, c'est drôle ce chiffre 3. Bon, ça revient. C'est toujours à ces moments-là que j'ai pris des décisions où je me suis rendu compte, voilà, de ce qui m'animait dans le fond. Alors là, bah, je ne saurais pas trop dire si c'est un nouveau cycle. En fait, ce que je me demande là maintenant, c'est si la prochaine étape, c'est un numéro 4 ou si c'est un nouveau cycle de 3 qui commence. C'est ça la question. Parce que si je fonctionne par cycle, bah, on peut tout à fait imaginer qu'il peut y avoir un nouveau cycle qui commence. Donc peut-être que, je ne sais pas, cette pièce de théâtre va ouvrir un nouveau cycle. Ou bien ce départ en Italie, ou les deux, enfin, je ne sais pas, en fait.
Mais ça te plaît de ne pas savoir ?
Ouais, je crois que ça me plaît. J'ai souvent dit, oh là là, pourquoi j'ai pas un boulot normal, fixe, carré, organisé, avec un planning à peu près toujours le même, comme plein de gens. Ça m'est arrivé plein de fois, hein, de me dire ça, mais dans ces métiers comme ça, un peu... aléatoire, à me dire, oh là là, mais pourquoi je fais tout ça, en fait, alors que je pourrais avoir un job comme tout le monde. Et en fait, je crois que dans le fond, voilà, je suis bien dans cette espèce de petit bordel. Enfin, c'est un bordel un peu organisé quand même, hein, mais ça reste quand même un petit bordel, quoi. Enfin, voilà, c'est un joyeux bordel.
Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.